Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour à tous, bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick, bonjour mesdames.
Eh bien aujourd'hui nous nous retrouvons au studio tous les trois car nous avons une invitée.
De marque.
Une invitée de marque, je vous donne madame.
Madame Monique Deronia.
Madame Monique Deronia.
Qui va nous présenter un superbe recueil sur les statues de Bourque. Et véritablement c'est un bijou.
Les statues et autres merveilles.
C'est ça. Mais c'est vrai, il faudrait que ça serve de guide. Moi, c'est vrai qu'il faudrait se promener dans les rues de Bourque avec ce petit manuel. C'est formidable.
Avec ce guide à la main.
Voilà.
Voilà, Madame Deronia, c'est aussi patrimoine des Pays de l'Ain.
Tout à fait.
Tout à fait. Et donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes là autour d'un livre. Je vous laisse le bonheur de nous donner le titre de ce livre.
Eh bien, je vais peut-être déjà aussi vous remercier pour votre invitation.
C'est tout naturel.
Et le titre du livre, donc, c'est « À pas compter, les œuvres d'art à Bourg-en-Bresse ». Et il s'agit effectivement d'un guide pour aider les Burgiens à découvrir finalement les richesses qui sont dans la ville et que souvent nous ignorons.
Ben oui, parce qu'on passe à côté sans le savoir.
On passe à côté sans le savoir souvent, et peut-être aussi sans regarder.
Mais tout à fait. Souvent, on vit dans une ville et on ne connaît pas sa ville. Et ben, c'est le cas, je pense, à Bourg, pareil. Hein.
Tout à fait.
Les œuvres d'art, elles sont nombreuses quand même à Bourg.
Elles sont nombreuses puisque j'en ai dénombré et elles ne sont peut-être pas toutes indiquées. J'en ai dénombré quelques 70.
A-t-on le temps de les voir maintenant, c'est ça peut-être bon. Ou l'envie, oui. Mais généralement, le piéton, il court, il pense à ce qu'il fait, il fait des courses, il y a le portable qui l'appelle. La pensée peut être vagabonde ou un peu secouée.
Je pense que ça dépend des personnes.
Oui,
bien sûr.
Il y a toujours eu des personnes curieuses et d'autres qui...
Donc il faut réveiller la curiosité quand même.
Ce serait bien. Tout à fait.
Et donc, c'est grâce à... Et à pas compter, vous pouvez, pour nos auditeurs...
Oui, compter.
oui, justement, épeler le mot compter.
Ah, eh bien, écoutez, le mot compter s'écrit comme un conte.
Voilà, parce que je l'ai trouvé
différent.
C-O-N-T-E-S.
Voilà, parce que je l'avais vu écrit comme un compte bancaire.
C'est non, comme si on comptait les pas, peut-être. Il y en a peut-être qui pensaient qu'on comptait les pas.
Ah, mais rien n'empêche de compter les pas.
En plus.
En plus.
C'est bien. Nous voudrions dédier cette émission bien à un grand amoureux des livres qui nous a quittés, à un amoureux des livres, de la dictée, de la littérature, des soirées littéraires, et qui nous manque beaucoup, un épicurien, n'est-ce pas ? Il s'agit de Bernard Pivot. Bernard Pivot qui nous a quittés lundi soir. Eh bien, Bernard Pivot évoque beaucoup de choses. Vous qui êtes lyonnaise, Gisèle, qu'est-ce qui vous évoque alors ?
Moi, c'est quand même quelqu'un qui faisait découvrir la littérature à pas mal de gens. Parce que on découvrait des auteurs grâce à lui. Parce que le vendredi soir, on se réunissait autour de cette émission. Et c'était bien. Parce qu'il nous faisait découvrir des auteurs qu'on ne connaissait pas.
C'était un passeur de livres,
c'est
si
ça.
Vous voulez.
Et
vous, madame ?
C'était un grand liseur,
en fait. Je ne peux pas ajouter beaucoup à ce qui vient d'être dit.
Oui. C'est... Un épicurien. Il disait que le vin, c'est bon pour la culture et pour la santé, avec modération.
Oui, c'était un gourmand, il aimait bien manger, bien boire, oui. D'ailleurs, il avait des vignes dans son petit village, dans le Beaujolais, à Quincier, en Beaujolais. Mmh.
Et c'est bon pour l'esprit, disait-il.
Eh bien voilà, il avait raison.
Voilà, et nous sommes là, bien autour d'un livre. Donc, s'il nous regarde, je ne sais pas d'où, peut-être est-il entre deux ceps de vigne ou dans les vignes du Beaujolais. Nous sommes là à pas compter, grâce à vous, grâce à ce travail, que vous avez réalisé, les œuvres d'art à Bourg-en-Bresse. Alors,
comment vous est venue l'idée du livre ?
La genèse de l'œuvre.
Voilà, c'est ça.
La jeunesse de l'œuvre, eh bien, j'ai pris conscience que finalement, je déambulais dans les rues de Bourg-en-Bresse sans regarder ce qui s'y trouvait.
Ah, vous aussi ?
Moi aussi, et je crois donc, on vient de le dire, que je ne suis pas la seule.
Bien sûr, bien sûr.
Et de cette prise de conscience, donc, est né ce guide.
Cette idée du guide.
Puisqu'il s'agit bien effectivement d'un répertoire, d'un inventaire des œuvres dans la ville.
Et quelle richesse !
Et finalement, effectivement, quelle richesse, oui.
C'est inouï. Oui. Moi, j'ignorais tout ça.
Et oui.
Avec des grands sculpteurs, des grands noms.
Tout à fait. Des grands noms, pour ne citer que quelques-uns, on a donc Landowski, ben par exemple.
Paul Landowski, bien sûr.
C'est celui Paul Maximilien Landowski, oui, très connu entre autres pour son Christ rédempteur du Corcovado.
Oui, au Brésil. Oui.
Au Brésil, au-dessus de la magnifique baie de Rio. Oui. On peut citer Richard Serra, qui vient d'ailleurs également de nous quitter.
Aussi, oui.
Un grand artiste contemporain américain, je dirais superstar de l'art contemporain, puisqu'il est célèbre surtout pour ses œuvres monumentales et immersives. Il a réalisé, entre autres, pas mal d'œuvres style ruban d'acier, entre lesquelles on a la possibilité de se déplacer.
Oui.
Et ce sont toutes des œuvres, j'ai envie de dire, des œuvres de poids, puisque certaines pèsent jusqu'à 210 tonnes.
Oui.
À Bourg-en-Bresse... Il est connu pour les deux sculptures Marguerite et Philibert, qui se trouvent dans le deuxième cloître de Brou. Ce sont des sortes de parallélépipèdes d'acier qui pèsent quelques 8 et 7 tonnes. On est loin des 210 tonnes dont il était question précédemment.
Ah oui,
mais enfin,
on devait faire des trucs monumentaux comme ça.
Pas forcément, je pense pas, mais c'est la proposition qu'il a faite au musée de Brou et qui a été acceptée.
Ah non, je pensais qu'au départ, c'est ce qu'il avait prévu. Non, non, pas du tout.
Ah ben, je pense qu'on lui a demandé...
Que ce soit plus léger.
Pas forcément, non. Non, non.
Ça a surpris, mais maintenant, ça fait partie de l'ensemble
du cadre.
Brou.
Oui.
Tout à fait.
Ça s'est bien inséré.
Ce sont des sculptures un peu... discrète,
oui.
Mais qui oblige tout de même à faire le tour du cloître et à reprendre cette déambulation des moines lorsque les moines occupaient les lieux et effectuaient leur promenade donc autour du cloître. Mmh,
c'est vrai. Ça incite aussi à la réflexion, à l'interrogation.
Tout à fait.
Mais c'est le cadre aussi qui incite à la réflexion.
Également, oui.
Le tout.
Mais
voilà. Il y a le classique.
Ils sont un peu interrogatifs quand même,
c'est ça.
Ces deux masses d'acier.
Surtout, si on parle des prénoms, Marguerite et Philibert.
Oui.
Ce n'est pas des tableaux, c'est le silence, c'est la matière.
Tout à fait, le mystère.
Le mystère, donc les portes ou les fenêtres ouvertes. Au grand mystère avec un grand M, comme beaucoup de mystères aussi. Chacun peut y voir ce qu'il veut, chacun peut y ressentir.
Ah ben c'est comme dans toute œuvre d'art.
Voilà.
Tout à fait.
Ça, c'est en question de chaque individu, on ressent les choses différemment, c'est vrai.
Mais, sauf que certains tableaux comme la Joconde, au moins on voit un visage, on voit un paysage derrière.
Oui.
Ah ben là, on est plus dans l'art contemporain.
C'est le contemporain, c'est ça. Donc, c'est pour ça que l'art contemporain pose beaucoup de questions.
Tout à fait.
Voilà. Mmh. Alors, on a dit qu'il y avait qui encore ?
On peut citer cet artiste japonais, Satoru Sato. Qui a réalisé des œuvres dans le cadre du 1% artistique au Collège Thomas Ribou.
D'accord.
Les œuvres du 1% artistique représentent d'ailleurs bon nombre d'œuvres à Bourg.
À Bourg, ah oui.
puisque lorsqu'il y avait construction notamment d'un nouvel établissement scolaire,
oui.
1% du coût de l'établissement
était, consacré.
Était destiné ah, oui. à une œuvre d'artiste. Et Pierre Doss,
oui.
un architecte mmh. donc burgien,
de Bourg.
A mmh. Créé, enfin a créé, a réalisé un certain nombre d'établissements. Il était lui-même artiste, il avait des relations dans le milieu artistique.
Oui.
Et c'est lui donc qui est à l'origine aussi de...
Du mémorial pour les Français morts en Algérie, c'est pas ça ?
Aussi,
c'est
pas ça ? Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Mais c'est, je pense, par l'intermédiaire de Pierre Doss que bon nombre d'artistes sont représentés dans les établissements scolaires.
Ah oui, d'accord.
Puisque ce 1% artistique, finalement, avait été créé, d'une part, pour ouvrir les élèves
à l'art, oui.
mais également pour apporter un peu de travail aux artistes.
Oui.
Qui étaient
souvent
moins,
les parents pauvres des sociétés, voilà. Oui, c'est vrai. Mmh. Oui, oui.
Vous parlez à l'imparfait, ça n'existe plus, le
Pierre,
1%. Non, le
1%. Je pense qu'il existe toujours, mais
oui.
on en parle très peu.
Moins.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Oui, oui. On inaugure un oui. établissement oui. scolaire et pas une œuvre d'art. Voilà. Mais enfin, ça
mais
va.
Mais c'est à vérifier.
Mais ça
vi-
ah oui, c'est ça,
vérifier.
On ne sait plus, oui, oui. on ne sait pas.
Ouais.
D'accord.
Voilà, voilà. Mais enfin, l'idée est bonne.
Tout à fait.
Excellente, c'est une
et
ouverture.
Et le dernier collège, donc, si je ne me trompe pas, qui a été ouvert sur Bourg, c'était donc Thomas Ribou,
oui.
qui a fait appel à cet artiste japonais,
oui.
Oui. artiste qui travaille quand même sur Paris.
Hein. Oui. La plupart du temps, oui.
Voilà.
Mais c'est
voilà.
des œuvres en acier, en granit, en choses comme ça, non ?
Ce sont des œuvres, alors il en a réalisé deux au collège Thomas Ribou. Une dans la cour arrière du collège, c'est effectivement du granit, du béton de
oui,
l'acier.
C'est béton et acier, oui.
C'est
oui.
très géométrique. Et puis une autre à l'entrée de l'établissement qui est installée entre deux bâtiments, en suspension donc, vraisemblablement dans des matières plastiques. Ou...
D'accord.
Voilà.
Bon, alors après, qu'est-ce qu'il y a comme artiste en
alors,
plus ?
Alors, comme autre artiste, on peut citer également, donc on a parlé de Landowski, Richard Serra. Si on va, il y a un designer qui est quand même assez réputé également sur Paris, Sylvain Dubuisson.
D'accord.
Qui a réalisé pour... La MSA, dans la cour de la Visitation. Non, ce n'est pas la MSA, pardon.
La DDT.
Voilà.
Ancienne DDE.
DDE.
Voilà.
Voilà,
la DDT.
Direction.
Voilà. Direction départementale des territoires.
Tout
voilà.
à fait.
Rue Bourmaillet.
Voilà.
Voilà.
Excusez mon erreur.
Pas du tout.
Qui a réalisé donc une œuvre intitulée Le Miroir.
Oui. Mais là, il faut rentrer dans la cour pour
il
le voir.
Il faut rentrer dans
oui.
la
ah,
cour.
Voilà, c'est ça. Voilà.
On peut, on demande à l'accueil, moi je l'ai eu fait.
Parce que là, voilà. le portail est fermé, donc
il n'y a pas de portail.
Non,
la porte. Enfin, bref.
Bah, il faut demander à l'accueil.
On peut.
Oui.
Parce que ça, moi, je ne l'ai jamais vu. Hein.
On ira le voir.
Et c'est une œuvre qui reflète les arcades de l'ancien cloître de la Visitation.
Oui.
Et donc, je suppose que c'est de là que vient le nom de miroir.
Oui, d'accord.
Mais ce qui est étonnant, surtout, c'est la nature du matériau. Puisque lorsqu'on regarde ce miroir, on a tout à fait l'impression d'être devant du verre. Ou devant
ah oui.
une résine quelconque, mais en fait il s'agit tout simplement d'un bronze blanc
ah,
qui a
donc.
Été fondu dans cette célèbre fonderie de Saint-Rémy-les-Chevreuses, la fonderie Coubertin.
D'accord.
Et donc Sylvain ouais, Dubuisson est
jamais
également
vu, moi,
un grand designer
ah, oui.
actuel.
D'accord.
Donc, on retrouve un peu aussi le moderne et puis le,
ah ben ça, c'est très moderne,
le plus classique aussi avec le cloître.
Oui, mais...
Tout à fait.
Mais c'est surtout
comme Abrou,
tout à fait.
Les extrêmes s'attirent.
C'est surtout moderne.
Ou se complètent.
On dira ça.
Voilà. Oui.
La sculpture est surtout moderne.
Et votre livre a le mérite d'ouvrir les yeux et de révéler ces merveilles. Beaucoup de gens, beaucoup de burgiens, de burgiennes, ignorent tout ce qu'il y a dans ces cours, et, etc.
Même sur les façades.
Oui, oui. Mais enfin, les œuvres qui sont dans les cours, ce sont essentiellement donc les œuvres qui sont dans les cours des établissements scolaires,
oui.
Mais que très souvent on peut apercevoir de l'extérieur. Oui. Si vous prenez par exemple le lycée Caria,
oui.
Les trois œuvres sont tout à fait
visibles de
l'extérieur.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Pour le lycée Kinet, c'est un petit peu plus
compliqué.
Compliqué. Il y en a certaines, donc effectivement, qu'on ne voit pas de l'extérieur. La Lande. Eh bien, on a placé, j'ai presque envie de dire, on a relégué à l'extrémité d'un bâtiment cette œuvre de Koulantzianos. C'est peut-être un peu...
Alors, c'est qui ce sculpteur ?
Koulantzianos, donc c'est un grec.
C'est un grec ?
Comme son nom l'indique, qui est venu faire des études aux Beaux-Arts en France.
En France, oui.
Qui, après Paris, donc, s'est retrouvé dans notre département,
d'accord.
Qui était un ami de Roger Vaillant,
ah, oui.
Qui est resté un certain temps à Meillonnat.
Meillonnat, oui, chez
avant
Roger Vaillant.
S'installer
oui.
À Chavannes-sur-Ressouze, où il avait son atelier. Et il a fait beaucoup d'œuvres pour justement le 1% artistique,
d'accord.
Des œuvres qui sont dispersées un petit peu partout dans le département.
Et pourquoi vous dites qu'elle a été reléguée ? Parce que cette statue était
parce
où,
que,
normalement
je pense que...
Elle n'est pas mise en valeur.
Au milieu de la cour du
lycée, oui.
Au départ. Et puis, finalement... comme elle devait gêner, eh bien, elle est à l'extrémité du bâtiment d'internat, entre ce bâtiment d'internat
donc on la voit pas beaucoup.
Et la clôture du lycée. Bah, on la voit, si, à travers la clôture.
Ah, d'accord. D'accord.
C'est un peu dommage.
Peut-être. Mais oui.
Voilà.
Donc, comme ça, par votre parole... Eh bien, ces merveilles, elles revivent. Objets inanimés, avez-vous donc une âme déjà ?
C'est ça, voilà.
Lamartine arrive au secours de ces chefs-d'œuvre, parfois cachés ou que personne ne voit. Donc, on est guidé grâce à vous et on part à pas compter. On va compter tout ça et on part avec à l'âme de Perrault ou un peu comme explorateur, et on voit d'autres merveilles. Avez-vous d'autres découvertes aussi à nous donner, à nous inciter à voir ?
Eh bien, je conseille de s'arrêter. Ça n'est pas facile.
Oui.
Vers le rond-point qui se trouve vers Alimentech.
Ah, d'accord.
Ah, oui.
Oui.
Où on a une œuvre de Claude C.S. qui est fort intéressante, qui est en bronze.
Et là, on la voit de...
On la voit tout à fait, on peut aller très près.
D'accord. Bon,
simplement, il est un peu difficile de stationner
mais
à proximité.
Mais c'est ça, parce que c'est du rond-point, c'est ça.
Tout à fait, mais on voit très bien cette œuvre, et qui est de conception donc intéressante, puisque elle est constituée de deux parties. Une partie qui représente une sorte de soleil et une autre où on voit très nettement un homme, ou du moins un être humain,
oui.
Qui essaye de se déployer, qui est en éclosion en quelque sorte.
Qui est en train de naître ?
Qui est en train de naître. L'œuvre porte d'ailleurs le nom de germination.
Ah oui,
c'est
d'accord.
Un peu comme une plante en germination.
Donc, c'est encore à voir, ça, vraiment.
Et, c'est effectivement une œuvre à voir, oui.
Elle est imposante ?
Oh, elle fait 2 ou 3 mètres de haut.
Ah, quand même, oui. Donc on ne peut pas la louper, là.
Non. Non, mais je pense quand même que quand on passe en voiture
c'est ça,
sur le,
oui, vers le rond-point,
on ne la voit pas.
Ben, c'est-à-dire ouais. qu'on est occupé par la circulation, donc en fait...
Par contre, ce que l'on remarque derrière cette œuvre, ce sont les peintures qui se trouvent sur l'amphithéâtre d'Alimentech.
D'accord. Ah oui, oui, c'est vrai.
Et qui reprennent donc l'histoire du lait depuis la préhistoire jusqu'à nos jours.
Ah oui.
Mais là encore, ce sont des œuvres qui commencent à souffrir un petit peu
du temps. Ah oh, mon Dieu.
Eh bien, nous changeons de temps. Maintenant, nous allons partir un peu en musique avec un peu pourri du début du 20e et du 19e. Voilà. On part aussi à la découverte. Nous recevons aujourd'hui Monique Desrognat, merveilleux guide pour découvrir l'art dans la ville de Bourg-en-Bresse. Merci pour votre présence. Nous avons écouté Déambulation, le morceau allait très bien, et Déambulation à New York, où vous voulez, par exemple, et puis aussi Réveil au petit matin, c'est-à-dire qu'après une bonne nuit, bien, on peut partir, se promener et chercher encore les trésors de la ville de Bourg. Avez-vous d'autres
titres? Moi, ce que j'aime bien sur le guide, c'est que les œuvres d'art, elles sont répertoriées par quartier. Donc, oui. on va bien se situer dans Bourg. Ça, c'est bien.
Ça, c'est une aide précieuse.
Tout à fait. Mais écoutez, c'est le but d'un guide.
D'un guide.
Effectivement bien
c'est
se
réussi.
Repérer.
On vous guide.
Et chaque quartier est représenté par un plan.
Oui, j'ai vu.
Et
oui, oui.
Sur le
on
plan,
suit.
Donc,
avec les œuvres. Oui, c'est ça.
C'est voilà. Très pédagogique, donc, si on peut dire, même. Et très pratique.
Voilà. Il est donc possible.
On se repère.
Il y a quelques 6 quartiers répertoriés,
oui.
Ce qui peut donner lieu donc à 6 promenades.
6 promenades.
Du dimanche,
oui, voilà.
Ou d'un autre jour, évidemment.
Oui.
Et voilà, ce sont des... des quartiers qui peuvent être visités en une heure ou deux. Donc, l'idéal pour une découverte.
J'ai montré votre livre à un de mes petits-fils qui m'a dit « C'est super, tu sais, il faut qu'on aille se promener là-bas. Bien, voilà. Alors, on va y aller. »
Voilà, mais c'était l'objectif du livre.
Eh bien, c'est réussi. Parce que là, il me dit « Mais c'est vraiment magnifique. Hein. » Voilà.
Et oui.
Et c'est un jeune. Hein.
Merci. Et oui. On ne se rend pas compte.
Mais parce qu'on passe à côté sans le voir. On ne sait pas qu'on a tant de richesses.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, on n'a pas le temps.
Je ne sais pas. Si on ne fait plus attention à rien, je crois, surtout.
Je pense qu'une ville, selon la population, ne se découvre bien qu'à pied.
Ah ben, c'est certain.
Parfois, on peut prendre un bus ou un taxi, si on est trop fatigué au retour, ou un vélo, ou une trottinette, ça c'est encore autre chose. Mais si on veut visiter, s'arrêter, prendre le temps, d'humer l'air aussi, ça se fait à pied. Donc, faut prévoir de bonnes chaussures.
Croyez-vous que c'est pour ça que la municipalité limite la circulation des voitures en ville ?
Encore une question. Encore une question.
On ne sait pas.
Avez-vous un quartier qui vous est particulièrement cher, peut-être ? Ou dans lequel vous avez trouvé beaucoup de choses ? C'est difficile.
En parlant des sculpteurs, peut-être.
Le plus riche, peut-être.
Parce que, par exemple, on peut parler de Muscat.
On peut parler de Muscat. Si on parle de Muscat à ce moment-là...
On rejoint Pivot, avec le vin et tout ça, c'est pas le même.
C'est différent. Bon.
Alphonse Muscat. C'est pas tout à fait la même chose.
Alphonse Muscat,
Mais écoutez, on le trouve dans le quartier de la préfecture, évidemment, avec le magnifique monument aux morts.
C'est ça, déjà,
sa plus belle réalisation en matière de monuments aux morts, puisqu'il en a réalisé
plusieurs.
Quelques 25 en 5 ans, là, après la guerre. On trouve de Muscat également
la statue de Jérôme Lalande, c'est lui ?
Oui, mais toujours près de la préfecture, la Sarcleuse, regardant l'heure au soleil.
Oui, c'est ça.
Une œuvre en pierre.
Au square Joubert.
Au square Joubert, voilà. Tout à fait. Il y a, mais qui n'est pas visible, mais il a réalisé pour la maternité une œuvre qui s'appelle donc Mater.
Oui.
D'accord.
La mère. Qui allait le bébé.
Et puis, on le trouve avec une œuvre en bronze, cette fois, qui est donc le buste de Lalande.
Ah oui.
Buste de Lalande en bronze qui surmonte un piédestal réalisé par Tony Ferré.
Tony Ferré, parce qu'il est
on
aussi.
On retrouve
Tony Ferré aussi, oui.
Tony Ferré également dans des sculptures.
Mais qui était un architecte
en
plus,
pour,
ses œuvres architecturales aussi, oui, c'est ça. Mmh. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore comme sculpteur qui était intéressant ?
Alors, je pense qu'on peut parler de David Danger, qui a réalisé, donc, qui est aussi un sculpteur célèbre, qui a réalisé la statue de Xavier Bichat, qui se trouve sur la promenade du Bastion. David Danger, c'était en fait un jeune qui habitait Angers et parce que la ville lui a payé en quelque sorte ses études aux Beaux-Arts, a pris le nom de David Danger.
Voilà, c'est ça.
Et David Danger est un grand sculpteur également, puisqu'il a fait bon nombre d'œuvres à Paris, et entre autres le fronton du Panthéon, qui est en quelque sorte son manifeste, et sur lequel il a représenté d'ailleurs Xavier Bichat. Et David Danger était très admiratif de tous les grands hommes, et il a cherché à les sculpter. Pendant son...
Les honorer en même temps. Les glorifier, si on peut dire.
Tout à fait.
Il est très beau, celui de Bichat. Il ausculte un enfant.
C'est ça. Et il est assis sur le cadavre. Oui. Sur un cadavre.
Parce qu'il s'occupait aussi des morts.
qui fait malade. Allusion à toutes ces recherches, effectivement, ah bah oui. sur la vie et la mort.
C'est ça.
Et on dit quand même que Xavier Bichat faisait pas mal de vivisection.
Voilà.
Et qu'éventuellement, il allait déterrer
la nuit.
Voilà.
Au cimetière.
C'est comme ça qu'il a progressé, peut-être.
Tout à fait.
Oui, ben c'est la passion.
C'était l'époque, peut-être aussi. Donc,
Oui. La statue est très belle. Elle a échappé à la fonte. Aux tempêtes de la vie.
Tout à fait.
Ben,
à la fonderie des Allemands.
Oui, pourquoi n'ont-ils pas fondu?
On dit que c'était parce que, on dit pour une chose qui est un peu va de soi, parce que ce n'était pas un militaire, c'était un médecin. Et il y avait un enfant aussi.
Oui, mais
la
statue de Robin a été fondue.
Oui.
Et il était médecin aussi.
Oui. Peut-être que l'enfant a dû jouer beaucoup.
C'est possible.
Et puis, je sais personnellement qu'il y a aussi une petite lampe romaine aussi.
Et il y a une petite lampe romaine au pied, donc symbole de connaissance.
Oui.
Mais apparemment, il y avait à l'origine d'autres instruments
au pied de la statue
qui rappelaient donc précisément ces recherches, ces vivisections.
Voilà, oui. Et puis, il n'avait rien fait comme les autres, comme Quinet, qui avait beaucoup écrit contre l'Allemagne aussi, et la Prusse. Il voyait ce qui arrivait, ce qui arriverait. Et puis aussi, il y avait Joubert aussi, donc c'était des écrivains ou des visionnaires ou des militaires qui sont partis en fumée. Heureusement, Bichat est resté.
Oui.
Bichat n'avait rien contre le monde germanique.
La plus ancienne statue sur Bourg.
Sur Bourg, c'est la plus ancienne.
Elle était 1843.
Ouais, elle était avant.
Elle était sur la place de la Grenette.
Sur la place de la Grenette, au centre. Je me souviens, elle était entourée d'une grille qui était très rouillée. Et chaque fois qu'on s'appuyait, quand on jouait au ballon ou au patin à roulettes, on rentrait à la maison avec
les mains rouillées.
Les mains très rouillées. Puis après. Parking ou voiture oblige, il est monté plus. Il s'est élevé, Bichat s'est élevé. Voilà. C'était encore un honneur, vous voyez.
Tout à fait.
Mais c'est mérité.
C'est mérité, c'est bien. D'autres statues qui interpellent aussi.
Il y a Voska.
Alors, Voska.
Voska.
On a deux œuvres d'Voska Bourg. La plus célèbre, donc, c'est ce qu'on appelle la Vizirette.
Oui, la Vizirette, c'est ça.
En fait, la fontaine des quatre chemins.
C'est ça.
Qui est donc une sphère représentant le ciel, au-dessus de la terre, qui est le carré qui se trouve au-dessous.
Oui.
Et de cette sphère, donc, s'écoulent quatre fontaines qui partent dans les quatre directions.
Le nord,
le sud, l'est.
Oui, c'est ça.
On peut éventuellement y trouver d'autres interprétations.
Oui, chacun.
On met l'interprétation que l'on a envie de mettre.
C'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Chaque œuvre est interprétée différemment selon son ressenti.
Tout à fait. Et Avoscan a fait une autre œuvre qui se trouve sur le mur sur un mur proche des archives. C'est une œuvre qui est beaucoup plus, je dirais, énigmatique. En couleur. Là.
Mais c'est celui qui a fait la Porte du Soleil.
Et c'est lui qui a fait la Porte du Soleil.
Sur l'autoroute, à la 7.
Avoscan a beaucoup travaillé a fait des œuvres monumentales déjà, et il a beaucoup travaillé sur le carré et sur le cercle. Beaucoup d'œuvres géométriques.
Oui, c'est le cas de la porte sur l'autoroute.
C'est
là.
Ça, voilà.
La porte,
il y a le soleil, on voit le soleil, on passe à travers même.
Et il a fait, parce que Avoscan faisait partie aussi du cercle d'amis de Roger Vaillant, il a fait pour Meillonnat, sur la place du château, Fleur de pierre. Il s'agit donc d'une sculpture, là aussi, qui est basée sur le cercle et sur le carré.
Ah oui, toujours géométrique en fait.
Toujours géométrique.
D'accord, c'est sa patte.
Tout à fait. Et il travaillait donc à Buxy, dans le Mâconnais. Et il a beaucoup travaillé la pierre de Buxy.
D'accord.
Pas uniquement.
Oui, c'est ça, oui. C'est une pierre blanche ?
C'est une pierre blanche, oui, c'est un calcaire.
D'accord.
Enfin, oui, plus ou moins blanc.
Et puis, il y a Charles Machet.
Charles Machet, alors on lui doit cette très jolie, ce très joli joueur de flûte.
Ce joueur de flûte, oui.
Qui se trouve près de l'école Saint-Exupéry.
D'accord.
Qui est, voilà, tout à fait charmant.
Mais elle est très mignonne, hein, c'est vrai, quand on voit la photo, elle est très mignonne, cette statue.
Tout à fait, oui.
Ah, oui. Et c'est celui qui a fait le Val d'Enfer, là-bas, non ?
Et c'est celui qui a fait le Val d'Enfer.
Contre le truc des maquisards,
c'est ça ? Au Cerdon, oui.
Qui est, et Charles Machet donc, a fait de son joueur de flûte une œuvre très, très épurée.
Parce qu'il est de l'Ain, lui.
Oui. Et du Bugey.
Et du Bugey, oui.
Et c'est lui qui considère d'ailleurs que plus une œuvre est épurée et plus elle est difficile à réaliser.
On croirait plutôt le contraire.
Eh bien,
on croirait plutôt le contraire, parce que quand on est très travaillé, on se dit c'est difficile. Mais non, en fait, elle est épurée. Et, parce qu'il faut penser quand même à ce que ça va représenter, peut-être.
Ah ben, il faut,
Lui rendre une certaine plastique, une certaine légèreté.
Une certaine légèreté. Il faut penser effectivement aux proportions qui sont peut-être plus difficiles également à respecter.
Parce qu'il y a moins de matière.
Il y a moins de matière et...
C'est éthéré un peu aussi.
Tout à fait.
Ben comme Saint-Exupéry, comme le Petit Prince, est éthéré parfois. C'est ça. Ben nous allons nous envoler, si vous voulez, avec Maurice Ravel, avec le tombeau de Couperin. Vous voyez, le tombeau, ça nous annonce une visite au cimetière tout à l'heure.
Voilà, on va faire le cimetière.
Thank you.
Voilà, avec Maurice Ravel et le tombeau de Couperin. On va laisser Couperin, mais le mot tombeau nous invite peut-être aussi à aller visiter.
Alors,
le
je voudrais
chapitre.
Avant au parc de la Ressouze, j'aimerais passer au parc de la Ressouze. Parc de la Ressouze, parce qu'il y a vraiment des belles petites statues là.
Oui.
Pierre Godard qui a fait ça, voilà.
Tout à fait. Cette femme donc allongée au bord de la Ressouze est
ça.
Effectivement assez charmante.
C'est
le
ça,
cadre
c'est, voilà, c'est ça.
Est très très agréable. Et il a réalisé deux autres œuvres qui ressemblent à des fontaines.
Oui, c'est ça. Oui. Et moi j'aime bien cette Ressouze là. C'est magnifique.
Mais
c'est pour ça que je voulais revenir dessus.
Oui, oui.
Maintenant, on va au cimetière.
Alors, on va aller au cimetière. Allons-y.
Voilà. On n'y coupe
pas. Le cimetière
pas.
Du Grand Châle.
C'est-à-dire le Grand Châle. C'est-à-dire ce qu'on appelle aussi, vous le savez peut-être pas, Gisèle, c'est le chant du sommeil aussi.
Ah, mon Dieu.
Le chant du sommeil. Voilà.
Tout
et
à
oui.
Fait.
Le chant du sommeil. Et alors, on a un cimetière qui est, ben, c'est un musée aussi.
Avec quelques
tout
belles sépultures.
Fait.
Avec de nombreuses sépultures. Que les Bressans connaissent ou connaissent mal. Et cet ouvrage vient très bien à propos pour ouvrir les yeux des gens, les calmer un peu dans la folie d'aujourd'hui. Et puis, on en sort aussi un peu plus... plus serein, peut-être. Plus serein. Et puis, alors, vous avez des photos extraordinaires. Il y a des tombes, des sépultures. Ce sont des véritables mausolées, presque,
par exemple.
Tout à fait, oui. Je crois que vous appréciez tout spécialement ce monument de la famille Albi.
Et oui, c'est ça.
Et il est particulièrement spectaculaire, puisque réalisé d'une part en granit et en pierre calcaire, autrement dit noir et blanc, il se remarque de très loin. Il présente le portrait du défunt qui domine donc le monument. Et puis, surtout, au pied, je ne sais pas si on peut vraiment parler du pied, mais il y a cet ange très, très grand, blanc, qui se remarque de loin, qui tient un maillet et qui s'apprête en quelque sorte, à sonner sur la cloche qui se trouve suspendue à proximité. Et on dit donc qu'il fera tinter la cloche à l'heure de la résurrection. Et à ce moment-là, les défunts se lèveront pour se soumettre au jugement dernier, au jugement de Dieu.
Très beau.
C'est un monument plein de...
Plein de symboles.
Et il y a également, donc, et on le retrouve très souvent sur bon nombre de monuments, le sablier.
Oui,
donc,
le temps qui s'écoule.
Mesure le temps qui s'écoule.
Il y a aussi un monument sur Joseph-Marie Caria.
Le monument à Joseph-Marie Caria, donc, qui a été réalisé par la municipalité à la suite du legs qu'il a fait à la ville.
C'est ça.
Et sur ce monument, donc cette sorte de colonne, on trouve le portrait de Caria.
Caria, oui.
On trouve également une sorte de trophée qui rappelle donc ses grandes actions. Et puis, le texte qu'il a laissé en demandant la réalisation d'une institution pour l'enseignement des jeunes.
Mais c'est ce qui s'est passé.
C'est tout à fait ce qui s'est passé. Et c'est ce que, très récemment, la ville a essayé de respecter en enfermant en quelque sorte cette institution Caria. Dans un bâtiment moderne, nouveau conservatoire, amphithéorium de la ville.
De la ville, oui, d'accord.
Le moderne qui essaye de rejoindre le classique, voire l'ancien.
Bah, c'est peut-être comme ça qu'on avance d'ailleurs.
Oui, oui.
Oui.
À condition que ça ne touffe pas trop. Question de dosage aussi.
L'œuvre de Caria et son souhait ont été respectés.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Avec un bel escalier.
Avec un bel escalier, oui.
Et une architecture de l'époque.
Tout à fait.
Sur une place qui est devenue autre, mais c'était la, ça exprime l'évolution et puis le fait d'aller en avant. Quoi.
Tout à fait. C'est ça. La ville se végétalise beaucoup,
oui.
Notamment ces dernières années.
Tout à fait.
Et c'est vrai que cela ne peut qu'inciter à installer de nouvelles œuvres d'art.
Voilà.
Au milieu de cette
belle... de la verdure.
C'est ça.
Verdure.
Tout à fait. Et au cimetière, avez-vous d'autres belles statues qui vraiment...
D'autres monuments, valent... d'autres sépultures.
Il y a le monument qui est celui de la famille Bozonnet,
oui.
Qui est également très richement sculpté. Il s'agit donc là aussi d'un cip. Et le haut est donc richement sculpté avec le portrait du défunt, là aussi, avec des initiales gravées. Avec des guirlandes de
ah oui, c'est fleurs. Riche, hein, c'est très, très ourlé tout ça. Hein.
Tout à fait.
Oh là là, oui.
Et tout ça au milieu des poiriers qui se trouvent à proximité. Et lorsque l'ensemble est en fleurs, c'est absolument magnifique.
Magnifique, voilà, ah oui. Ah oui, quand on voit qu'est-ce qu'il y a encore comme famille?
Il y a des grandes familles.
Mais il y a le monument de Joséphine Raymond,
oui.
Qui est qui est également particulièrement spectaculaire.
Ah ben oui, c'est énorme.
Oui, très très religieux, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui.
Dominé donc par une statue de la Vierge et d'un ange, et qui porte également des sculptures qui représentent des anges couronnant le cœur de Marie. Disons que c'est un monument dédié au Sacré-Cœur.
Ah, voilà.
De Marie et de Jésus et de Marie.
Le Marie. Oui,
c'est Joséphine Jésus. Raymond était très pieuse. Et elle a d'ailleurs également offert pour l'église Notre-Dame un vitrail sur le Sacré-Cœur.
D'accord.
Justement, parlons de Notre-Dame. Vous parlez des vitraux de Notre-Dame.
Oui, mais par contre, les vitraux n'entrent pas
dans le livre. Voilà.
Je sais.
Oui. C'est une œuvre d'art aussi, c'est vrai.
Peut-être pour un autre livre, peut-être. Ça, on ne sait jamais.
Ça.
Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de ces déambulations?
Ce qui m'a marqué, c'est la variété.
Oui. Et la richesse.
De toute façon, ce
et
sont des œuvres qui s'étalent du 18e au 21e siècle. Elles sont donc forcément variées.
Oui.
Ce qui constitue la richesse,
c'est ça,
effectivement, oui. de ces œuvres à Bourque. Et richesse donc qui se retrouve dans les différents styles, qui se retrouve également dans les différents matériaux utilisés, puisqu'il est bien évident qu'au XXIe siècle, on a tendance, compte tenu de tout ce que l'on dit sur l'écologie, on a tendance à partir sur des matériaux dégradables, décomposables.
Oui, c'est ça, renouvelables.
Renouvelables, voilà.
Ah oui.
Et c'est entre autres ce que Jérémy Gobet a fait pour son œuvre Anthropocène témoin, qui se trouve donc dans le troisième cloître de Brou.
C'est du béton, là, non?
Alors, c'est...
Un béton moulé, non?
C'est un PLA biosourcé et compostable.
Mon Dieu.
C'est-à-dire un matériau à base d'acide polylactique.
Je ne sais pas si c'est écologique, ça.
Mais il est décomposable.
Ah, d'accord.
Donc, voilà. Et c'est un matériau donc, qui a été élaboré dans les laboratoires de Weber et Broutin à Servaz.
Servaz, oui.
Et ce matériau donc, écologique a été utilisé par Jérémy Gobet pour une œuvre qui reprend des motifs de la Renaissance, puisque il a représenté des formes géométriques, mais ornées de formes vermiculaires, formes de verre.
Oui.
Et finalement, ces formes étaient déjà utilisées dans le soubassement des bâtiments de la Renaissance.
D'accord. C'est Weber et Broutin qui est le mécène, là.
C'est Weber et Broutin qui est mécène. C'est Weber et Broutin qui a donné, finalement, ses œuvres au musée de Brou.
D'accord. Oui.
Les œuvres, donc, qui appartiennent désormais à Brou.
D'accord. Parce que je ne connais pas du tout ce sculpteur. Jérémy Gobet, vous dites.
Jérémy Gobet, ben, c'est un jeune sculpteur.
Oui. La jeunesse.
Voilà.
Je crois qu'il est né en 1980, je crois, j'ai vu là.
Oui,
il est jeune, mais
tout
c'est
à
ça.
Fait.
Oui.
Eh bien, de moins jeune, vous avez, page 4, rendu un petit hommage. Vous avez fait appel à Rilke.
Ah, mon Dieu, c'est autre chose.
J'ai vu. Bon. pourquoi avez-vous choisi Rilke?
Parce que l'être un poète.
Oui, et
parce
puis
parce que je suis tombée sur cette citation,
oui.
Qui m'a plu.
Eh ben oui,
et
tout à
que
fait.
J'ai trouvé adaptée à l'ouvrage.
C'est ça.
De même que le petit texte qui se trouve au-dessous et qui nous incite donc, si nous restons un peu perplexes devant certaines œuvres. Qui nous incite à laisser faire le temps et la maturation de notre esprit pour arriver à mieux les comprendre.
Oh, c'est bien ça.
Vous voulez que l'on lise le texte
Noël
du bas.
Vous pouvez le lire vous-même.
Lire tranquillement.
Oui, vous le lisez vous-même.
Alors, les œuvres de l'art ont quelque chose d'infiniment solitaire et rien n'est aussi peu capable de les atteindre que la critique. Seul l'amour peut les saisir, les tenir et peut être équitable envers elles. C'est à vous-même, à ce que vous sentez, qu'il faut toujours donner raison. Contre toutes ces analyses, ces comptes rendus ou introductions, quand bien même vous auriez tort, c'est la croissance naturelle de votre vie intérieure qui vous amènera lentement, avec le temps, à d'autres conceptions.
Ben voilà.
Et oui. Je pense notamment à cette œuvre qui se trouve à la médiathèque Vaillant,
oui.
Qui s'intitule « Du parfait à l'imparfait ». On peut se demander quand même pourquoi ce titre. Et il s'agit là de quelques 54 tiges surmontées d'une sorte de petit livre replié. Mmh. 54 tiges qui sont disposées au pied de la médiathèque. Un petit peu comme sont disposés les musiciens au pied du chef d'orchestre.
Oui, d'accord.
Et l'artiste donc considère que voilà que son œuvre peut faire penser justement à un orchestre.
Un orchestre, d'accord. Mais il n'y a pas le chef d'orchestre.
Mais bah, le chef d'orchestre peut être c'est représenté
nous.
Par la médiathèque aussi.
Ou c'est nous qui regardons.
Ou c'est nous qui regardons.
Oui, tout ce que contient et offre la médiathèque.
Tout ce que contient et offre la médiathèque.
Avec Brou, pas loin. On retrouve l'art toujours, de toute façon. On retrouve l'art. Vous avez cité Rilke et vous donnez quatre vers, les tirés de la lettre à un jeune poète qui date de 1929, si vous permettez. Et plus indicible que tout sont les œuvres de l'art, existence mystérieuse dont la vie, à côté de la nôtre, qui passe, est durable. En peu de mots, que de choses sont dites. Merci à Rilke. Qui était né, je rappelle, à Prague en 1875, dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, et qui est décédé en Suisse vers Montreux en 1926, et qui repose à Rarogne, c'est bien ça, dans le canton du Valais. Eh bien, nous arrivons au terme de notre, j'allais dire, pèlerinage. Non, dans, pourquoi pas? On pèlerine aussi.
Si on peut.
On pèlerine peut. Avec la pèlerine à cause du temps. Mais merci beaucoup pour de votre, ben, votre pas, presque, je dirais, votre vocation de guide. Nous y voyons plus clair. C'est ce que nous souhaitons à la vie de ce livre, que je rappelle, Monique Deronia a pas compté.
Quelle
les œuvres, les œuvres d'art à Bourg-en-Bresse. C'est le patrimoine des pays de l'Ain. C'est un ouvrage qui fait 144 pages.
C'est ce qu'il fallait.
Eh oui. Et donc, c'est quelque chose à avoir, à offrir, et qui a une belle apparence, avec un bleu presque méditerranéen. Et c'est vraiment quelque chose qui incite à découvrir Bourg, à y rester, et peut-être plus tard, selon la vie, à s'y installer. Mais là, c'est encore un point d'interrogation. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez exprimé avec calme, avec ferveur et en même temps. Merci, merci Gisèle.
Merci à vous.
Merci à Jimmy,
merci à Madame Deronia.
Aux manettes. Et nous partons un peu, ben on va se promener dans la mer, en l'air, en partant, voilà. Merci.
Mais c'est moi aussi qui vous remercie donc pour la présentation de cet ouvrage, de ce guide.
Elle devait l'être, il devait l'être.
Merci beaucoup, merci.